Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut. Ravi de vous retrouver pour ce numéro, le 27e je pense, et toujours accompagné du meilleur, Arnaud Beurdelet, journaliste milieu olympique. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain Raffut, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large, mais surtout en travers, au menu aujourd'hui. D'abord, comme chaque semaine, Raph nous servira son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir le troisième ligne de l'USAP, Alan Brazo, un joueur pas comme les autres, vous allez vous en rendre compte. Ce breton d'origine, un natif du Morbihan, a mené en parallèle de sa carrière professionnelle de rugbyman des études pour devenir océanographe. Il a soutenu sa thèse il y a quelques semaines et aujourd'hui, il est diplômé. On va faire sa connaissance pour entrer un peu plus en profondeur sur ce sujet. Enfin, dans la troisième partie, place au débrief façon Poulain Raffut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Alors surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Et si vous êtes prêts, évidemment, on va y aller. Poulain Raffut, saison 6, épisode 27, c'est parti. Allez, première partie, Raph, la ruade de Poulain, la traditionnelle, la fameuse, la légendaire ruade de Poulain. Raph, cette semaine, tu veux nous parler de Momo Awas, le pilier droit de l'équipe de France, qui a écopé d'un carton rouge dimanche dernier. C'était lors de la rencontre du tournoi Destination contre l'Écosse au Stade de France. Une sanction qui a déchaîné une foule de commentaires assez odieux. Et ça t'a agacé, c'est bien ça?
Oui, Arnaud, on le sait, à chaque match du tournoi, c'est la cour des miracles. Et tu te retrouves avec 65 millions de sélectionneurs potentiels avant même que l'équipe ne sorte. Et ça y va à grands coups de « moi, je vois bien Jaminet à la place de Ramos, et toi ?» Moi, j'aurais bien mis Jalibert, il a plus de talent, et pourquoi pas un retour de ma grand-mère, c'est tentant aussi. Et puis, un Tao Fifenua, plutôt que flamand, c'est plus gaillard, plus percutant. Jusqu'ici, rien d'anormal. À l'approche du match, chacun y va de son petit prono, de sa petite compo. Perso, je m'en fous. Tant que les mecs s'envoient et que je vois de belles envolées, tout me plaît. J'aime le rugby, mais de là à parler de stratégie, non. Là où ça se corse, c'est pendant le match, avec les choix, les erreurs parfois des joueurs sur le terrain. Là, tu vas sur les réseaux sociaux à la mi-temps et tu sors les pop-corns. C'est un rassemblement de cerveaux qui sortent la sulfateuse à tour de bras et ça décanille. Oren Tamak est à chier aujourd'hui. Il est fini, le pauvre. Je trouve Dupont un peu émoussé. Ramos qui la loupe à 40 mètres juste en face. Bref. Ah, mais Penaud et ses travers, laquelle encoche. Deuxième carton rouge pour Mohamed Awas. Mais il est complètement abruti, c'est pas possible. Et encore, j'ai évité de vous citer quand même les trucs salaces, mais j'ai lu des propos tellement blessants et tellement humiliants. Vous ne laissez pas beaucoup d'espoir à ce que les choses s'améliorent. Et bien au-delà du sport, les mots, ça marque. Parleriez-vous comme ça à vos gosses, vos amis, vos proches? Ce courage en 160 caractères, quand même. Alors, je vous propose un truc, chers pseudo-supporters. Mettez le short. Entraînez-vous 5 jours sur 7. Perdez 20 bons kilos. Faites baisser votre masse grasse de 75% et augmentez votre QI de 100% par la même occasion. Faites-vous greffer un mental qui vous permettra de prendre des autobus et des Clio pendant 80 minutes et d'essiffler aussi par la même occasion quand ça se complique. Et vous verrez bien qu'il est difficile de tout mener de front sans faire d'erreur. Ah ben non, oui, pardon, j'avais oublié. Vous êtes et vous faites partie justement de ces personnes qui se sont fait les croisés à 17 ans. Sinon, vous y seriez déjà en équipe de France avec une bonne cinquantaine de sélections au cul à même pas 25 ans. En réponse, j'entends déjà les « oui, mais c'est pas mon boulot ». Eh ben, dis-toi que si t'étais charpentier, je ne suis pas certain que tu apprécierais qu'un brancardier vienne te casser les noix, à t'apprendre à planter un clou, à fixer de la poutrelle. Alors, un peu de dignité, de tolérance et d'humilité, que diable. Quand on connaît un minimum les enjeux, la pression que peuvent vivre les joueuses et les joueurs, alors on ne peut que compatir quand une ligne blanche est franchie. Ça s'appelle l'empathie. Oh, je ne me fais pas défenseur de la veuve et de l'opprimé à grand coup de béni, oui. Je sais bien que de nos jours, on est friand de négatifs, de malheurs, de tragédies, et que de dégueuler sur son voisin bien assis confortablement sur son canapé, c'est à la mode, c'est jouissif. Mais ça ne s'appelle pas de la liberté d'expression, c'est tout simplement de la connerie humaine. L'intelligence, justement, c'est de contrecarrer cette petite pulsion à la con à l'intérieur de soi. Tu sais, ce petit démon, ce petit fumier de démon en chacun de nous, et malgré leurs boulettes, leurs manquements et autres erreurs, de continuer à supporter tout joueur et tout joueuse qui porte ce maillot floqué du coq ou d'un club qui passe à la télé en acceptant que, justement, l'erreur soit humaine. Et comme le dit si bien Cécile Gray sur Twitter, on peut être peiné et l'exprimer, mais pour ceux qui insultent, un peu de clairvoyance et une bonne camomille ne ferait pas de mal. Alors, plutôt que de se réjouir du malheur des autres, pour les plus énervés, j'ajouterai, pour conclure, un bon gros « Mohamed, on t'aime !» Juste pour faire chier ces spécialistes de tout et surtout de pas grand-chose, vive la République et vive la France avec son lot de liberté, d'égalité et surtout, dans notre cher rugby, vive la fraternité.
Allez, deuxième partie aujourd'hui dans Poulain Raffut, nous avons la chance de recevoir le troisième ligne de l'USAP, Alan Brazo, un joueur pas franchement comme les autres, hein, on l'a déjà évoqué dans la première partie avec Raph. Ce breton d'origine, né dans le Morbihan, qui a mené en parallèle de sa carrière professionnelle de rugbyman, des études pour devenir océanographe. Il a soutenu sa thèse il y a quelques semaines et il est aujourd'hui diplômé. Il est docteur en océanologie. Raph, déjà c'est un mot contre triple Scrabble, donc là-dessus on est tous les deux battus. Et en tout cas, ça t'a épaté. T'avais envie d'en savoir plus, hein, c'est bien ça?
Oui, mais on a toujours l'impression en fait, de parler de ces mecs dans les années 80 qui avaient ce double projet, les diplômes aussi, t'avais des docteurs, t'avais... enfin bref. Et là, alors je me fous souvent de la gueule des mecs quand ils sont au fond du bus en disant « on a le cerveau de la bande ». Là, on a le vrai cerveau de la bande, justement, avec Alan Brazo. Alors Alan, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça va? Parce que tu t'es fait opérer de l'épaule et je dois t'avouer en fait que t'es dans un endroit que je connais très très bien parce que j'étais plus à Cap-Breton que sur les terrains de rugby fut un temps, donc je connais bien ça. Déjà, première question, bonjour, comment ça va?
Ouais, ben ça va très bien, merci. Du coup, ouais, je me suis fait opérer il y a 3 mois maintenant d'une butée. Ils m'ont mis une butée à l'épaule suite à une luxation. Et du coup, ben, tu as reconnu un peu la télé, j'ai l'impression, et la chambre. Ouais, en effet, je suis à Cap-Breton. Là, je fais une phase de réathlétisation avant de reprendre les entraînements. C'est prévu dans 1 ou 2 semaines. Là. Donc, j'envoie le bout, tout se passe bien. Et voilà, j'ai bon espoir de pouvoir, j'espère en tout cas, pouvoir rejouer quelques matchs d'ici la fin du championnat.
C'est toujours Charlie qui est préparateur physique ou pas?
Ça, il y en a quelques-uns, non. Je pense que ça a changé.
Parce que j'étais aussi, je te parle de ça, c'est comme je dis toujours, c'était au siècle dernier qu'on parle de 2000-2001.
Non, je pense qu'il y a eu un peu de turnover.
Bon, messieurs, avant de poursuivre vos échanges, Raph, je te propose que tu nous dresses le portrait d'Alan. Alors attention, hein, Brazo façon Poulain Raffut, c'est un peu différent et c'est maintenant.
Non, je vais être assez cool, Alan. Ça fait bientôt 9 ans que tu es professionnel et fidèle à l'USAP depuis tes débuts, en plus. Et pour ça, les chapeaux quand même. Moi, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ce sport, ou en tout cas son côté professionnel, t'es un peu tombé sur le coin de la tronche. C'est la sensation que j'ai après par hasard et que tu profites de chaque moment comme du plus. Quoi. Vous êtes rares, les Bretons, à percer dans notre cher rugby. Alors, Breton, tu y es resté un an, on va en parler, mais tu es plus de casse que de pousanée, on va dire. Mais voilà, tu as percé dans notre cher rugby. Et justement, toi, c'est plutôt la mer et la passion, ta passion. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait t'inviter. Alors, quand j'ai lu que tu venais d'avoir ton diplôme de docteur en océanologie, j'ai trouvé ça génial. Et au-delà du fait que ça sonne bien, et encore mieux venant d'un rugbyman, j'ai voulu en savoir plus sur toi, ton parcours, ton présent de rugbyman et ton futur métier. Là, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Tu es donc depuis janvier dernier docteur en océanologie, bac plus 8. Alors moi, j'ai un bac plus 8, mais de PlayStation et de troisième mi-temps, autant te dire que c'est calot. D'abord, est-ce que tu as l'impression, pour reprendre une expression à la mode, que tu es un peu un ovni dans le rugby français?
Non, je pense... Enfin, rien qu'autour de moi, dans l'équipe, il y en a quelques-uns qui poursuivent leurs études. Hein. Je pense que c'est assez courant maintenant. Il y a peut-être eu des années, là, dans les années peut-être, je ne sais pas, 2000-2010, où c'est vrai que ce n'était pas trop au centre des préoccupations. Mais c'est vrai que maintenant, dans les centres de formation, de par Proval, plein de structures, on est quand même encouragé, les jeunes sont encouragés à poursuivre quand même leur cursus de par la précarité du sport. Et moi, autour de moi, j'en connais un paquet, quoi, qui ont fait des écoles d'ingé, différents trucs. Après, voilà, le bac plus 8, j'en connais pas trop, mais comme tu l'as dit, c'est la passion qui m'a amené jusqu'à ce niveau d'études-là. Et Voilà, si j'avais pas été passionné par le milieu marin, j'aurais pas continué autant. Ouais.
On entend
Alors
plus parler,
justement,
pardon, juste, on entend quand
vas-y.
même plus parler de joueurs et joueuses qui font des BPJEPS que de devenir docteur en océanologie, quand même.
Oui, c'est sûr.
Raconte-nous, Alan, justement, comment t'es venu cette passion pour les océans. Parce que, alors oui, tu es né dans le Morbihan, tu y as très peu vécu. Tu es plutôt, on va dire, originaire de la région Castres, un endroit où il n'y a pas franchement la mer, hein, on ne va pas se mentir. Comment ça s'est venu? Est-ce que c'est il y a une fibre bretonne finalement pour cette appétence pour les océans?
Ouais, ben c'est parti. Comme tu l'as dit, j'ai grandi à Castres, donc un peu loin de la mer. Mais de tout petit, mon grand-père, il m'a transmis la passion un peu pour, ben, premièrement, la pêche, on va dire, et après aussi tout l'amour du milieu aquatique, quoi, des milieux aquatiques. Donc, j'ai toujours été fasciné par les rivières. Voilà, j'adorais ben, me balader, essayer de comprendre comment ça se passait. J'adore pêcher. J'ai développé ça aussi depuis pas mal d'années. Et du coup, ben, à 18 ans, quand je suis allé à Perpignan pour mes études, quand j'ai quitté Castres après le bac, là, j'ai découvert vraiment ben, le milieu marin. Et voilà. Et là, tout ce qui va avec, quoi, la richesse. Petit à petit, je me suis mis à la plongée. Donc, j'ai pu voir plus précisément ce qui se passait sous la surface. Et ça m'a donné envie de poursuivre. Et ça s'est fait. Voilà, ça n'a jamais été un objectif pour moi de faire une thèse. Voilà, j'étais parti plus pour faire une licence pro à la base. Et petit à petit, ben, plus je découvrais ce milieu-là, plus j'avais envie d'en apprendre plus. Et c'est ça qui m'a mené jusqu'à la thèse, quoi. Mais c'était pas du tout un plan, défini, quoi.
Est-ce qu'il y a aussi une appétence sur le changement climatique? Je vais parler de Julien Pierre qui, lui, a grandi dans un zoo et qui aujourd'hui a créé Fairplay for Planet et qui est vraiment tourné environnement. Est-ce que aussi au fur et à mesure de tes prises de conscience et au fur et à mesure des changements climatiques, tu as vu des, tu as, tu, tu, tu voilà, ça t'a poussé aussi à pousser tes études un peu plus loin encore et à essayer de, enfin, non pas d'améliorer les choses à ton petit niveau. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience aussi que tu as eue au fur et à mesure?
Ben, moi, ce n'est pas trop la thématique que j'ai étudiée. Nous, ce qu'on regarde simplement, c'est de voir comment les espèces qu'on étudie réagissent face ben, au réchauffement, par exemple, concrètement le réchauffement de la mer. Et on essaye de voir comment ça réagit et quelles peuvent être les conséquences dans les années à venir. Après, voilà, moi, je ne m'intéresse pas spécifiquement, je ne suis pas expert sur le sujet, donc je vais un peu botter en touche parce que sinon, je pourrais dire des conneries, mais non, non, ouais.
Mais dis-nous justement, parce que tu as réalisé ta thèse donc sur la biologie et l'écologie d'un petit poisson méditerranéen, le corbe. Pourquoi ce choix? Comment on arrive à définir une thèse sur un sujet aussi précis, aussi... Voilà, ça pourrait relever presque de l'abstrait pour le commun des mortels.
Ben en fait, tout est parti de mon stage de fin de master. J'ai étudié en fait des comptages qui avaient été réalisés par un laboratoire, le laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse, le laboratoire CEFREM. Ce laboratoire a fait des comptages avec une réserve qu'on a à proximité de Perpignan, qui est la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls. Et donc, moi, j'avais juste pour mission de regarder ben, comment évoluaient les effectifs de poissons au cours des années. Et donc, j'avais plusieurs espèces et c'était facile sur certaines espèces d'expliquer pourquoi ben, c'était un chute, pourquoi il y avait des augmentations d'effectifs, parce qu'on connaissait comment cette espèce vivait. Donc, on pouvait facilement expliquer. En fait, quand je suis arrivé à cette espèce, le corbe, ben, j'ai demandé à plusieurs scientifiques qui bossaient avec moi, putain, mais comment ça vit? Et en fait, il y avait vraiment des lacunes au niveau connaissance sur cette espèce. Et cette espèce venait tout juste d'être classée vulnérable et protégée sur les côtes françaises. Donc, en fait, il y avait une réelle nécessité d'augmenter les connaissances. Et mon directeur de thèse m'a dit, ben, tu vois, par exemple, typiquement, améliorer les connaissances sur ce poisson, ça pourrait faire l'objet d'un travail de thèse. Donc, ça m'a un peu trotté dans la tête. Je venais de signer mon premier contrat pro. Donc, je n'avais pas besoin de financement, de bourse, ce qui est le plus compliqué au final à obtenir pour réaliser une thèse. Donc, je me suis dit, ben, feu, quoi. Enfin, c'est l'occasion. Et voilà, ça s'est fait vraiment sur les derniers mois de mon master où il y a ce sujet-là qui a mûri petit à petit. Et le laboratoire a été intéressé aussi et ça s'est lancé comme ça.
Et vu comme tu en parles, en fait, je t'ai dit, j'ai envie de sortir des pop-corns, là, j'ai envie de t'écouter pendant 3 heures. Donc, quelle est la situation aujourd'hui du corbe en Méditerranée? Vraiment, Bah, ça m'intéresse, si tu peux le vulgariser en 2 minutes, je trouve ça hyper intéressant.
Ouais, ben en fait, c'est une espèce qui a un comportement ben, super calme, qui vit dans peu de profondeur et surtout ben, qui est bonne à manger, quoi. C'est ça la problématique première. Et en fait, elle a acquis vraiment, c'était vraiment considéré comme un poisson trophée pour tous les chasseurs sous-marins, notamment sur les côtes méditerranéennes françaises. Et donc, avec le développement de cette activité dans les années, on va dire, 90-2000, on a eu une forte chute des effectifs, à tel point qu'on en trouvait quasi exclusivement dans les réserves. Donc, voilà, ça a permis de mettre en place le moratoire depuis 2013 qui vise à protéger cette espèce, c'est-à-dire qu'on ne peut plus le chasser, le pêcher sur les côtes françaises. Et ce moratoire, en fait, pour être reconduit et renouvelé, ben, on a besoin de faire des études et des recherches dessus. C'est vraiment dans ce cadre-là qu'est né voilà, le projet de thèse. Et donc, actuellement, ben, on observe ben, une amélioration des effectifs donc, au sein des réserves. Par exemple, sur la réserve de Banyuls, dans les années 2000, on a comptabilisé à peu près 100-150. Et aujourd'hui, on a plus de 450 individus sur la réserve. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ben, cette réserve, ben, les bénéfices que va apporter la réserve, ce n'est pas seulement au sein de la réserve, ça va être aussi à l'extérieur. Donc, les nouveaux individus qui vont arriver, ben, ils vont vouloir trouver des habitats disponibles, des ressources disponibles, et ils vont être amenés à sortir en dehors des limites de la réserve. Et petit à petit, ben, là, on a des plongeurs qui nous disent, ah, ben, tiens, c'est marrant, on en a vu là-bas, alors qu'on n'en avait jamais vu avant. Et on voit que c'est voilà, que c'est en train un peu de revenir petit à petit, mais voilà, il y a encore pas mal de travail à faire.
Alors justement, Alan, tu parles de travail, c'est quand même quelque chose qui doit être assez énergivore, qui prend du temps. Tu l'as dit, tu plonges également, tu as rédigé ta thèse. Comment on fait quand on est rugbyman professionnel? Parce que quand on écoute certains joueurs, on a le sentiment que, à part le rugby, on a le temps de rien faire. Comment tu as fait pour mener conjointement ces deux projets?
Ben, alors, tout d'abord, ce qu'on avait planifié et acté depuis le début, c'est que le rugby était prioritaire sur le travail de thèse, parce que ben, c'est ce qui me nourrit, quoi, ce qui me fait manger, on va dire, et c'est grâce au rugby que je peux réaliser la thèse. Donc, mes performances, je voulais pas que ce travail de thèse vienne gâcher un peu mes performances sur le terrain. Donc, le rugby a toujours été la priorité. Et après, ben, on arrive à trouver, j'ai réussi à trouver, on a des petites semaines sans match où c'est un peu plus léger, on a les déplacements en bus. C'est vrai que ben, c'est toujours cool hein, de jouer à la coinche avec les copains, mais des fois, ben, on se met devant le bus, on ouvre devant du bus, on ouvre l'ordi, on travaille un peu à l'hôtel,
Et
voilà.
personne vient t'embêter pendant que tu fais ça, alors qu'il y a quand même une armée de, comment on va dire, de coquins, on va dire.
Non, ça va, ça va, ça va. Non, ils ont été quand même assez cool avec moi, quoi. J'ai pris deux, trois pièces, bien sûr, c'est normal, mais non, 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 tout le monde a été cool. Et voilà, j'ai essayé ben, pendant le mois de vacances entre les deux saisons. Ben, c'est vrai que au lieu de partir un mois en vacances, ben, je partais qu'une semaine ou 10 jours et le reste, ben, j'en profitais pour plonger, faire tout le travail. Et après, au lieu de faire la thèse en 3 ans, je l'ai réalisée en 7 ans. Donc, ça m'a permis aussi. Là encore, l'université de Perpignan a joué le jeu, était au courant voilà, de ma situation et voilà, ça a fait que ça a pu se terminer. Ouais.
Comment le club a pu t'accompagner justement sur ce projet? Comme tu le disais, tu arrives, à la base, normalement, c'est une licence et tu finis avec un doctorat, 8 ans d'études. Comment ils t'ont accompagné tout au long de ces années?
Ben, au départ, en fait, j'ai été pas mal soutenu. Il y a une structure qui s'appelle USAP Formation, qui s'occupe de suivre les jeunes un peu dans leur parcours universitaire. Et donc, eux, ils m'ont toujours boosté. Quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, j'ai une petite idée dans la tête, là, je me tâte à faire une thèse. Ben, de suite, ils m'ont dit, mais faut pas te tâter, quoi. Faut y aller, on fonce, on appelle le truc. Voilà, donc, eux, déjà, ça m'a bien boosté au début. Et après, moi, ce que je voulais surtout pas, c'est, voilà, je me suis refusé de rater un entraînement parce que j'avais une réunion. Je me suis refusé tout ça. Donc, au final, je pense que ça ne s'est pas trop ressenti au sein du staff. Voilà, je voulais pas rater le moindre truc à cause de ça. Donc, je me suis toujours débrouillé pour le faire en dehors et voilà,
J'ai lu d'ailleurs, Alain, que lorsque tu as soutenu ta thèse, quelques-uns de tes coéquipiers étaient présents, le président Rivière également, le manager Patrick Arletta. Ça doit mettre un peu de baume au cœur, non, quand même, quelque part. Il y a une forme de reconnaissance aussi.
Ouais, bah c'est, enfin, voilà, que ce soit le président ou Patrick, on se connaît maintenant depuis plusieurs années, donc forcément ils sont au courant et je pense peut-être à des moments ils se demandaient si je travaillais vraiment parce que ça durait. Ils me disaient, bon, c'est bientôt fini. Je disais, oh, ben, encore un an, encore un an. Donc, non, ils étaient au courant de ce que je faisais à côté, mais c'est toujours compliqué d'expliquer réellement ce qu'on fait. Donc, moi, j'étais content qu'ils soient là. C'était l'occasion que ça soit, ben, voilà, mes collègues du rugby, ma famille, mes amis. C'était l'occasion un peu de leur expliquer plus précisément et avec des images ce que j'avais fait pendant toutes ces années parce que, voilà, à des moments, c'est pas évident et ça, vu que ça a traîné, notamment ma famille, je pense qu'à un moment, ils se sont dit, mais il se fout de notre gueule, en fait. Il fait pas du tout une thèse. Non, ouais.
Alors une petite question à la con, si un jour tu es amené justement à changer de club, il faut obligatoirement qu'il y ait la mer pas loin, donc j'imagine bien que tu finiras peut-être jamais à Clermont ou à Paris, même si à Paris, et c'est d'ailleurs Pierre Rabhadon qui s'occupe de la Seine à Paris, en train de s'assainir pour les JO 2024, ce c'est un petit coup de pub pour Pierrot, mais ouais, il faudrait la mer pas loin justement.
Ouais, alors là, les études sont terminées, donc on va dire que sur le plan rugby, j'ai un peu plus de mobilité qu'auparavant. Mais c'est sûr qu'à titre personnel, ben, je me vois pas trop vivre. Me vois pas trop vivre, voilà, dans le centre de la France. Après, je te rassure, j'ai pas eu trop d'appels. Hein.
Mais tu as quand même une sacrée fidélité, hein, Alain. Je trouve qu'il y a une sacrée fidélité. Hein. Tu as fait quelques allers-retours en Pro D2 avec Perpignan et tu y es toujours. Alors, ça, je pense que ça va au-delà du diplôme. Je pense que c'est. On va parler un peu du club quand même, même si tu traverses des difficultés. Il y a une vraie fidélité de ta part, justement, à être dans ce club depuis tes débuts pro, en fait, 2014, je pense. C'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais, non, c'est. Enfin, je te dis, moi, j'ai commencé le rugby après 18 ans. C'est vraiment avec les Crabos de l'USAP que j'ai appris. Et je ne suis pas d'une famille de rugbyman. J'avais mon petit frère qui s'y était mis 1 ou 2 ans avant. Donc, je savais qu'il fallait faire les passes en arrière. Mais après, en dehors de ça,
C'est pour
c'était
ça
quand
que tu
même
joues
compliqué.
troisième ligne. Hein.
Ouais, c'est ça.
C'est
Et
pour ça que moi, on m'a mis à l'aile, je ne savais pas faire une passe comme toi, donc t'inquiète.
j'ai commencé seconde ligne en plus. De base, hein, ils m'ont dit, voilà, qui touche le moins de ballons possible, ça sera bien. Et non, ouais. Et du coup, j'ai tout, enfin, je suis arrivé à 18 ans, enfin, avec ma valise à Perpignan, et j'ai vraiment tout découvert. Je me suis construit sur Perpignan, donc j'ai vraiment un attachement à cette ville. Ma copine est de Perpignan aussi. Voilà, j'ai trouvé, je pense, mon équilibre. J'adore aussi la montagne. Voilà, donc il y a. Pour moi, il n'y avait
Région
aucune raison.
idéale.
Non, mais il y avait aucune raison de partir. Et à chaque fois, ben, le club a souhaité que, voilà, a souhaité me conserver assez tôt dans la saison. Et voilà, je ne voyais pas pourquoi partir. On a eu aussi un bon groupe de copains. On a vécu pas mal de choses ensemble. Donc, ouais, non, c'est. Je suis content et fier d'avoir fait qu'un club. Hein, c'est.
Je ne me suis pas trompé en disant que le rugby pro, t'étais tombé sur le coin de la tronche. Je me trompe pas. T'en rêvais pas depuis tout petit. T'as pas fait les toilettes. Non.
J'ai lu que tu
Non,
avais joué au football longtemps, gardien de but à Castres, et que tu avais même joué un 32e de finale de Gambardella contre les Girondins de Bordeaux.
ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, non, j'étais plus d'une famille de foot, on va dire. Et j'ai fait du foot, ouais, jusqu'à ben, mes 18 ans, quoi. Et après, quand je suis allé à Perpignan, j'avais un prof de sport à Castres qui était du milieu du rugby, qui jouait à Grouillé, en fédéral, et qui faisait que me tanner, bah, mets-toi au rugby, c'est quoi ce sport et tout. Et pareil, là, c'était un petit truc qui me trottait dans la tête. Hein. Et quand je suis arrivé à Perpignan, je me suis dit, bah, écoute, ça tombe bien, quitte à changer de ville, bah, pourquoi pas découvrir ce sport. Et voilà, j'ai eu l'opportunité de faire une petite semaine avec les Crabos de l'USAP. Et même si ça ne s'est pas avéré très concluant, ils m'ont dit, ben, si tu veux rester, reste, mais tu ne joueras pas un match, quoi. Je me suis dit, ben, tant pis, quitte à pas jouer, au moins, je progresserai peut-être un peu plus vite. Et c'était les premiers copains que je me faisais à Perpignan, les premières personnes, les cours n'avaient pas commencé. Et je me suis dit, ben, il y a des gars vraiment sympas, autant quitte à pas jouer, tant pis, mais j'apprendrai avec eux, quoi. Donc, ça s'est fait vraiment comme ça. Et C'est vraiment un hasard. Et même tout au long, hein, je veux dire, je n'ai jamais été au centre de formation. C'est-à-dire, ça m'a permis ça de continuer mes cours normalement parce que je n'avais pas les entraînements. J'avais les entraînements que le soir. Et voilà, que ça soit le passage de Cravos à Reichel, ce n'était pas prévu. De Reichel à Espoir non plus. Et après, encore moins, malheureusement, j'ai bénéficié de la descente du club en 2013. Ce qui a fait que, avec le départ de certains joueurs, ils ont dit, bon, toi, finalement, peut-être qu'on va te garder sous le coude au cas où. Et voilà, ça s'est fait vraiment, c'est que des hasards et un peu de chance, quoi.
Est-ce que
C'est
ce
ton
parcours
avis, en fait.
atypique,
C'est la...
pardon, justement, je vais rebondir, est-ce
Je
que
t'en
ce
prie.
parcours un peu atypique, une vie finalement un peu différente de ces joueurs qui sont un peu formatés dans les centres de formation, qui suivent le cursus traditionnel, est-ce que finalement ça te permet d'appréhender un peu mieux ce sport de haut niveau avec toute la pression hein, qui est sur vos épaules quand on joue notamment des situations quand on vit des situations difficiles comme c'est le cas en ce moment de l'USAP. Est-ce que tu as le sentiment de mieux appréhender ces situations? On te sent très cool, on te sent voilà, et on a l'impression que tu as eu 1000 vies déjà à côté du rugby.
Non, c'est sûr. Après, j'aurais vécu, je pense, j'aurais eu peut-être différentes réactions dans ma carrière si dès petit, j'avais été équipe de France jeune et compagnie, où on te dit voilà, ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir. Tu as beaucoup d'attentes et du coup, forcément, ça engendre du stress. Moi, ouais, j'étais stressé par les examens au début, quoi, un peu plus que les matchs. Et je trouve, moi, j'ai trouvé un petit équilibre dans ça où, quand justement avec le club, ça se passait pas très bien, ou dans le cas de blessure, par exemple, on arrive à s'occuper la tête différemment. On a une vie aussi à côté. Et surtout, ça m'a permis, moi, de me rendre compte que on est quand même des privilégiés, même si y a des inconvénients et il faut pas croire que c'est facile tous les jours et tout. Mais voilà, quand je vois au labo les collègues qui travaillent dur et voilà, pas rémunérés à hauteur d'un joueur de rugby, je me dis on a quand même de la chance, on a de la chance d'être avec voilà, on n'est pas tous copains, mais avec des gens sympas, d'être en groupe, de vivre en groupe. Et ça m'a surtout fait réaliser ça, quoi, que la vie en dehors du rugby, voilà, ça peut être aussi compliqué, même si voilà, des fois on râle, putain, on n'a pas les week-ends, ça fait 10 week-ends que voilà, et on aura le temps de le faire après. Et j'ai trouvé un petit équilibre entre la vie du rugby, et voilà, j'ai réussi un peu à jongler entre les deux, et je pense que ça m'a servi, ouais.
On va parler de l'USAP. Justement, il y a les résultats qui comptent, notamment le match qui est très important le week-end prochain contre Bayonne. Alors, même éloigné des terrains, est-ce que tu essaies d'accompagner l'équipe? Est-ce que tu es en relation avec la nouvelle génération aussi pour les aider, les accompagner? Parce qu'on sait, pour l'avoir vécu aussi, c'est toujours compliqué de vivre en parallèle d'un groupe quand ça vit bien aussi, quand ça vit moins bien, quand on est blessé. Donc, comment tu vis à la fois ta convalescence et par rapport au fait d'être spectateur de ce qui est en train de se passer justement à Perpignan?
Ouais, là j'étais un samedi, j'ai pu aller à Bordeaux les voir. Bon, ça s'est pas très bien passé, mais ouais, c'est important. On a un groupe quand même assez soudé, quoi. On essaye, même sur les matchs à l'extérieur, de faire le déplacement, montrer que même si sur le terrain on va pas trop les aider, on est avec eux. Et voilà, c'est l'avenir du club, quoi, qui a un jeu, quoi. Donc il y a une importance fondamentale. Non, on est resté, voilà, on a les blessés croisent les joueurs tous les jours. Donc ça permet voilà, notre centre d'entraînement permet de rester en contact avec l'équipe et de pas être isolé comme ça peut être le cas des fois. Et c'est vrai que c'est pas évident. Donc non, on a un groupe quand même assez soudé. Et voilà, on espère de tout cœur que déjà le match de samedi va bien se passer contre Bayonne à domicile, et qu'après, voilà, on pourra sortir de cette zone rouge au plus vite et rester en top 14.
Alors, c'est tout le mal, évidemment, qu'on souhaite à l'USAP, Alan. Une dernière question pour conclure, parce que bah, malheureusement, tu es plus proche de la fin que du début hein, de ta carrière professionnelle de rugby. Une idée, déjà, maintenant que tu as ce beau diplôme en poche, de ce que tu feras à l'issue de cette carrière de rugbyman professionnel?
Ouais, j'essaie de pas trop me projeter parce que ça m'a voilà, ce que le rugby m'a appris, c'est que ça va vite quoi, dans les deux sens. Donc voilà, y a des fois où je pensais pas rester à Perpignan, je suis resté, des fois où donc voilà, tout ce qu'on planifie, ben, souvent ça tombe un peu à l'eau. Donc là, je sais qu'il me reste un an, une saison. Et quelques matchs avec l'USAP. Donc, je vais me mettre à fond voilà, sur la partie rugby. Et après, on verra en fonction des opportunités que j'ai. Mais voilà, le diplôme, la thèse m'a permis de toucher à différents métiers auxquels je pourrais accéder, quoi. Donc, voilà, j'ai pu donner des cours à l'université. C'est quelque chose qui me plaît bien. Après, de là à faire ça toute ma vie, tous les jours, je ne sais pas trop. Mais voilà, c'est quand même une partie qui me plaît bien. J'ai pu aussi découvrir la partie un peu plus gestion en travaillant avec la réserve de Banyuls. C'est vrai que j'ai pu voir un peu au plus près leur métier. Et c'est un métier qui est quand même pluridisciplinaire. Ils font pas mal de choses. Et c'est un peu plus un métier de terrain. Donc, pourquoi pas m'orienter plus sur une partie gestion que recherche, je ne sais pas encore. Une fois de plus, ça dépendra des opportunités. Et voilà, à tout moment, je serai au centre de la France, mais ouais, j'y crois pas trop. Donc,
Parler de la réserve de Banyuls, on parle bien de la réserve naturelle, hein, pas de la
ouais.
réserve de l'équipe première de Banyuls.
Ouais, non, non.
Hein?
Non, non, ouais.
Bon, Alan, un grand, grand merci. Évidemment, on te souhaite le meilleur d'abord avec l'USAP. On l'a bien compris, maintenant, priorité au rugby sur les prochains mois. Et puis, le meilleur pour la suite, même si on a du mal à t'imaginer professeur à l'université, on t'imagine plutôt actif, avec une bouteille d'oxygène dans le dos pour aller justement. Travailler au plus près bah de ces poissons que tu étudies et puis être au plus près du milieu que tu affectionnes. Traditionnellement, le mot de la fin, il n'est pas pour l'invité, il est pour la star mondialement connue, Raphaël Poulain. Raph, j'imagine que c'est un échange qui t'a bien plu, toi qui as toujours beaucoup d'appétence justement pour ces histoires de double projet et ces gens qui font le sel du rugby.
Mondialement connu. En tout cas, je le suis à Beauvais et à Noyers-Saint-Martin, mon petit village Picard. Non, non, au-delà de ça, Alan, merci beaucoup parce que, comme je l'ai dit, on a besoin d'avoir, je pense, et pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont fidèles à l'émission, on a besoin d'avoir des parcours un peu atypiques, mais qui montrent en fait que tout est possible. Donc voilà, c'est des champs qui sont complètement différents, mais tu en parles avec la même passion que ce soit du rugby ou voilà, de ton futur métier, je pense. Donc c'est juste inspirant pour à la fois des mecs comme moi aussi, mais aussi pour la nouvelle génération qui a besoin d'être orientée et d'ouvrir le champ des possibles. Et tu le fais superbement bien. C'est pour ça que je voulais te donner la parole aujourd'hui. Donc je vais juste te souhaiter une bonne rééducation, que tu reviennes vite sur le terrain. Et puis la suite au prochain épisode, quoi.
Super, ben merci à vous.
Merci Alan. Nous, on va évidemment enchaîner avec la troisième partie de Poulain Raffut. Allez, troisième partie dans Poulain Raffut. Raph, on démarre avec un coup de cœur. Hein. Tu étais devant ta télévision hein, le week-end dernier. Évidemment, tu as regardé le match de l'équipe de France, mais tu as vu aussi la belle victoire du Stade Toulousain. Mais ce qui t'a le plus marqué, finalement, c'est le discours d'après-match, le discours du manager Hugo Mola. Tu nous en dis plus?
Bah, j'ai trouvé ça assez génial, tu vois, la fin du. Bah, j'aime beaucoup la fin du match de Toulouse, en fait. Bon, en général, ça gagne quand même pas mal, et les mecs sont au milieu du terrain, se tapent dans les mains. Je ne sais pas ce qu'ils font, hein, j'y comprends rien. Moi, ça me régale. Et surtout le discours d'Hugo Mola qui dit, bah, les gars, la priorité, là, avant le rendez-vous de lundi, et si vous ne voulez pas venir vous entraîner lundi, vous êtes obligés d'aller vous pinarder un petit peu dans les vestiaires et de retrouver tous les supporters à la Bodega. Quel bonheur. Et tu sais qu'aujourd'hui, on se pose toujours un peu cette question à savoir si c'était que le rugby était un petit peu comme il y a 10, 15, 20 ou 30 ans. Oui, la troisième mi-temps existe toujours. Et j'étais content de voir que ce soit le manager qui pousse ses joueurs à aller boire un coup, à aller avec les supporters, de passer un bon moment. Je pense que les mecs sont assez intelligents pour ne pas se pulvériser au vu aussi de l'hécatombe. Et on va en parler des joueurs toulousains qui sont tombés au combat, on va dire. Mais ben voilà, quand un match est abouti quand les joueurs et on a eu voilà un peu l'équipe B on va dire du Stade Toulousain qui a gagné, bah ça fait plaisir de se dire que voilà n'oublions pas que la troisième mi-temps est tout aussi importante que les deux premières. Voilà.
Allez, malheureusement, il y a un petit coup de gueule quand même hein, cette semaine. Raph, c'est toujours et encore, j'ai envie de dire, contre les calendriers du rugby, les joueurs qui pètent les uns après les autres. On l'a vu encore, tu en parlais avec Anthony Gélonche, hein, qui est un bon exemple de ce qui peut arriver, malheureusement. Il risque le troisième ligne, de rater la Coupe du Monde. Il a été victime d'une rupture des ligaments croisés. Un coup dur pour lui et pour le 15 de France. Un coup dur pour le Stade Toulousain, qui a aussi perdu Ange Capfozzo avec la sélection italienne. Raph, c'est finalement un serpent qui se mord la queue. C'est un éternel recommencement. C'est toujours les mêmes débats, mais ça t'agace.
Bah c'est chiant, oui, parce que oui, au-delà de se dire qu'on ne peut pas prévoir la blessure, mais quand on a vu justement que l'intensité du match contre l'Irlande, encore l'intensité du match contre l'Écosse ce week-end est gelon, il a quand même laissé en 25 minutes voilà, un protocole commotion, et puis derrière, voilà, sur ce plaquage, sur Van der Meer, je pense voilà, qu'il se chibre le genou, bah, ça fait chier, parce que derrière, voilà, on ne peut que penser que ceux qui sont déjà tombés, on va dire, au combat et dont on n'entend déjà plus parler. La Coupe du Monde est dans 7 ou 8 mois. Dupont l'a dit, hein, on a une cadence de match, et sans vouloir se plaindre, on a une cadence de match qui est infernale. C'est Willy Antonio qui l'avait dit aussi. Ouais, c'est pas de cracher dans la soupe que de dire qu'en fait qu'on joue beaucoup trop. Et c'est vrai, entre le top 14, entre la Coupe d'Europe, parce que tous les joueurs aujourd'hui qui sont en équipe de France jouent le top 14 et la Coupe d'Europe. On comprend que les clubs en fait aient besoin de leurs joueurs à 100% à longueur de temps. Mais c'est vrai, quand j'entends Fabien Galthié qui dit mais Antoine Dupont n'a fait que 4 matchs, ou c'était le 4e match avec l'Écosse depuis le mois de novembre, on a envie de lui dire, ouais, mais tu vois ce qu'il scoltine aussi au quotidien, tous les week-ends, entre la Coupe d'Europe et le championnat. Donc voilà, on accumule, et ça va au-delà de l'équipe de France. Hein. Je pense que c'est le système aujourd'hui qui est mis en place et qui est en place qui ne va pas. Les joueurs sont beaucoup trop sollicités, à la fois physiquement et mentalement et moralement. Et je pense qu'il y a un moment où il faudra se mettre à table pour je dirais, redistribuer les cartes et revoir un petit peu le format de notre championnat, peut-être, et puis de cette Coupe d'Europe qui est devenue une espèce de coupe presque du monde avec l'arrivée des Sud-Africains. On sait que ce n'est pas les mêmes gabarits, on sait que ce n'est pas la même intensité. Alors, on veut certes plus de spectacle, mais il y a un moment, c'est au détriment en fait, des corps et du mental de ces joueurs en fait, qui donnent tout et qui se blessent et qui tombent au combat. Donc, voilà, j'avais déjà parlé justement de cette allégorie des gladiateurs. Ben on est dedans, quoi. On est dans du pain et des jeux, et derrière, ben ouais, c'est pas grave. Il sera remplacé. Mais qu'est-ce qu'il
dit ? Il sera remplacé, effectivement. Et on lui souhaite évidemment à Anthony Gelonge le meilleur et beaucoup de courage pour qu'il puisse être au rendez-vous le 8 septembre prochain du coup d'envoi de cette Coupe du Monde. Beaucoup de courage donc à Anthony Gelonge, à Ange Capfozzo également, et à tous ces joueurs blessés qui ratent des échéances importantes. Raph, c'était ton coup de gueule. Un grand merci. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Toujours avec la banane, Raph.
Ouais, toujours. Merci à Alan pour cette belle interview. Merci à toi, Arnaud, et merci à Antoine Le Breton qui est réalisateur de cette émission. Et rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec le sourire. Merci, Arnaud.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.